André Malraux.
Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps.
Ça peut pas faire de mal.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté. Ces droits sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le et aidez-le à les conquérir. C'était l'appel lancé par le diplomate et ancien résistant français Stéphane Hessel. Il y a tout juste un an était publié son essai devenu best-seller « Indignez-vous », un texte qu'il a écrit à la suite d'un discours improvisé sur le plateau des Glières en Haute-Savoie. C'était en 2009. Ce jour-là, en ce haut lieu de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, il parle d'engagement, de liberté et d'espérance.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Avant lui, de nombreuses personnalités politiques se sont elles aussi indignées et ont prêté leur voix à la défense d'une cause, s'inscrivant ainsi dans le courant de l'histoire universelle. La semaine dernière, nous avons abordé les textes des plus grands orateurs français et étrangers. Continuons ce soir en parcourant les grands discours du XXe siècle avec des icônes telles que Gandhi, Kennedy ou encore Vaclav Havel et toujours en compagnie de mon collègue et ami Denis Podalydès de la Comédie française.
Like anybody, I would like to live. A long life, longevity has its place.
Commençons par l'un des plus célèbres discours du XXe siècle, celui qui se résume dans toutes les mémoires par une phrase « I have a dream ». Un discours prononcé par le pasteur Martin Luther King à Washington le 28 août 1963. Ce jour-là, une marche de la liberté est organisée jusqu'au Lincoln Memorial. Cette manifestation pacifique veut mettre en lumière les discriminations quotidiennes dont sont victimes les Noirs d'Amérique. Au terme de ce cortège, le pasteur King prend la parole devant plus de 250 000 personnes et réaffirme son rêve d'une Amérique qui aurait à cœur de réconcilier ses citoyens.
Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signait notre acte d'émancipation. Cette proclamation historique faisait comme un grand phare briller la lumière de l'espérance aux yeux de millions d'esclaves noirs marqués au feu d'une brûlante injustice. Ce fut comme l'aube joyeuse qui mettrait fin à la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans ont passé et le noir n'est pas encore libre. C'est pourquoi nous sommes accourus aujourd'hui en ce lieu pour rendre manifeste cette honteuse situation et pour rappeler à l'Amérique les urgences de l'heure présente. Le moment est maintenant venu de réaliser les promesses de la démocratie. Le moment est venu d'émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. Le moment est venu de tirer notre nation des sables mouvants de l'injustice pour la hisser sur le roc solide de la fraternité. Le moment est venu de réaliser la justice pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal à notre nation d'ignorer qu'il y a péril en la demeure. Cet étouffant été du légitime mécontentement des Noirs ne se terminera pas sans qu'advienne un automne vivifiant de liberté et d'égalité. 1963 n'est pas une fin, mais un commencement. Ceux qui espèrent que le noir avait seulement besoin de laisser fuser la vapeur et se montrera désormais satisfait se préparent à un rude réveil si le pays retourne à ses affaires comme avant. Il n'y aura plus ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le noir n'aura pas obtenu ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte continueront d'ébranler les fondations de notre nation jusqu'au jour où naîtra l'aube brillante de la justice. Mais il est une chose que je dois dire à mon peuple. En nous assurant notre juste place, ne nous rendons pas coupables d'agissements répréhensibles. Ne cherchons pas à étancher notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Livrons toujours notre bataille sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Il ne faut pas que notre revendication créatrice dégénère en violence physique. Encore et encore, il faut nous dresser sur les hauteurs majestueuses où nous opposerons les forces de l'âme à la force matérielle. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine de l'étroite cellule d'une prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les tempêtes de la persécution. Vous êtes les pionniers de la souffrance créatrice. Poursuivez votre tâche, convaincus que cette souffrance imméritée vous sera rédemption. Ne nous vautrons pas dans les vallées du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, même si nous devons affronter les difficultés aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve que, un jour, sur les rouges collines de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que, un jour, l'État du Mississippi lui-même, tout brûlant des feux de l'injustice et de l'oppression, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la hauteur de leur caractère. Je fais, aujourd'hui, un rêve. Je rêve que, un jour, en Alabama, où le racisme est vicieux, les petites filles et petits garçons noirs et les petites filles et petits garçons blancs pourront tous se prendre par la main comme frères et sœurs. Je fais, aujourd'hui, un rêve. Telle est mon espérance. Telle est la foi que je remporterai dans le Sud. Et avec une telle foi, nous serons capables de transformer la cacophonie de notre nation discordante en une merveilleuse symphonie de fraternité. Quand nous ferons en sorte que la liberté puisse sonner, quand nous la laisserons carillonner depuis chaque village et chaque hameau, depuis chaque État et chaque cité, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu pourront se tenir par la main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual. Libres enfin. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous voilà libres enfin.
Après l'assassinat de Malcolm X en 1965, Martin Luther King est assassiné devant l'hôtel de Memphis en 1968. Ces meurtriers ne seront jamais arrêtés.
I do dimly perceive that whilst everything around me is ever changing, ever dying, there is underlying all that change a living power.
40 ans plus tôt, une icône de la non-violence plaida en faveur de l'indépendance de son pays. Voici le discours de Mahatma Gandhi prononcé lors de son procès le 23 mars 1922. De par le monde, on le surnomme Mahatma, ce qui signifie en sanskrit « grande âme ». Mais de son vivant, Gandhi a toujours refusé ce titre. Il est aujourd'hui reconnu comme le père de la nation en Inde pour avoir œuvré à l'indépendance de son pays. Au départ, Gandhi fut tolérant envers le gouvernement britannique, mais il s'en désolidarise lorsqu'il se rend compte que les Anglais ne tiennent pas leurs promesses envers le peuple indien. Il va alors développer ce qu'il appelle le Swaraj, c'est-à-dire la non-coopération non-violente à l'égard de l'Angleterre. Gandhi est finalement arrêté le 10 mars 1922 suite à la parution de trois de ses articles dans les journaux. Lors de son procès, il plaide coupable. Voici la fin de son discours de défense. Je suis arrivé à contre-cœur à la conclusion que notre association avec la Grande-Bretagne a rendu l'Inde plus impuissante que jamais. Avant la venue des Anglais, l'Inde tissait et filait suffisamment dans ses millions de chaumières pour ajouter aux maigres ressources de l'agriculture ce qui lui était nécessaire. Cette industrie villageoise, si vitale pour l'existence du pays, fut ruinée par des procédés inhumains et cruels décrits par les Anglais qui en ont été témoins. Les habitants de ces villes ne savent guère comment les masses de l'Inde, à demi mourantes de faim, tombent dans l'épuisement. Nul sophisme, nul arrangement des chiffres ne peut faire disparaître le témoignage évident des squelettes que l'on voit dans un grand nombre de villages. En tout cas, je suis certain que l'Angleterre et les habitants des villes de l'Inde, s'il y a un Dieu au-dessus de nous, auront à répondre devant lui de ce crime envers l'humanité et envers l'histoire. En outre, le paragraphe 124 du Code pénal, d'après lequel j'ai le bonheur d'être accusé, est au premier rang de ceux qui tendent à supprimer la liberté du citoyen. La loi ne peut donner ou régler l'affection. Si l'on n'a pas d'affection pour un homme ou pour un système, on doit être libre d'exprimer sa désaffection dans toute sa force, du moment qu'on n'a pas l'intention de se montrer violent ou d'inciter à la violence. Mais d'après le paragraphe sur lequel vous vous appuyez pour me poursuivre, la désaffection est un crime. Laissez-moi donc vous dire que je considère que c'est une vertu d'avoir la désaffection pour un gouvernement qui a fait plus de mal à l'Inde que n'importe quel autre système antérieur. À mon humble avis, la non-coopération avec le mal est un devoir tout autant que la coopération avec le bien. Seulement, autrefois, la non-coopération consistait délibérément à user de violence envers celui qui faisait le mal. J'ai voulu montrer à mes compatriotes que la non-coopération violente ne faisait qu'augmenter le mal, et le mal ne se maintenant que par la violence, qu'il fallait, si nous ne voulions pas encourager le mal, nous abstenir de toute violence. Je suis donc ici prêt à me soumettre d'un cœur joyeux au châtiment le plus sévère qui puisse m'être infligé. Gandhi sera condamné à 6 ans de réclusion, mais sera libéré au bout de 2 ans. Ce jugement et le discours qui l'a précédé font de lui un martyr en Inde et partout dans le monde. Le 30 janvier 1948, il est abattu par un extrémiste hindou. Imagine there's no heaven.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
I speak you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all
of the cause of freedom.
En juin 1940, la paix semblait impossible. Le monde allait alors s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Voici le discours de Winston Churchill prononcé le 18 juin 1940, le même jour que l'appel aux Français du général de Gaulle. Churchill est alors Premier ministre. Devant les députés de la Chambre des communes à Londres, il s'engage à combattre l'armée allemande et place son peuple devant une alternative, la victoire dans la souffrance ou la défaite qui changera à jamais la face du monde. Quoi qu'il puisse advenir en France ou avec le gouvernement français ou avec tout autre gouvernement français, nous, sur cette île et dans l'Empire britannique, nous ne perdrons jamais notre esprit de camaraderie avec le peuple français. S'il nous est maintenant demandé d'endurer ce qu'il a souffert, nous imiterons son courage. Et si la victoire finale récompense nos efforts, il en partagera les fruits. Oui, et la liberté sera restaurée pour tous. Nous ne retrancherons rien de nos justes demandes. Nous ne céderons rien, pas un iota. Les Tchèques, les Polonais, les Norvégiens, les Néerlandais, les Belges ont lié leur cause à la nôtre. Tous seront rétablis dans leurs droits. Je suppose que la bataille de Grande-Bretagne va commencer. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. Notre propre existence britannique en dépend et la longue continuité de nos institutions et de notre empire. Toute la violence, toute la puissance de l'ennemi va très bientôt se déchaîner contre nous. Hitler sait qu'il devra nous briser sur notre île ou qu'il perdra la guerre. Si nous parvenons à lui résister, toute l'Europe pourra être libre et la vie du monde pourra progresser vers de hautes terres, vastes, inondées de soleil. Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans les abîmes d'un nouvel âge sombre, rendu plus sinistre et peut-être plus durable par les lumières d'une science pervertie. Préparons-nous donc à faire notre devoir et à nous conduire de telle sorte que si l'Empire britannique et son Commonwealth durent 1000 ans, les hommes diront encore « ce fut leur plus belle heure ». La fin du conflit en 1945 désigne les États-Unis et l'URSS comme les deux grands vainqueurs appelés à dominer le monde. Entre ces pays s'installe alors une rivalité politique et idéologique. L'Allemagne, et plus particulièrement Berlin, en fait les frais. En 1963, quelques mois avant son assassinat, John Fitzgerald Kennedy prononçait fièrement la phrase suivante « Ich bin ein Berliner ». Voilà 2 ans que le mur de la honte sépare Berlin en 2 distinctes. L'Est est sous contrôle soviétique, tandis que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France se partagent la gouvernance de l'Ouest. Ce mur, construit pour empêcher les Allemands de l'Est d'émigrer vers l'Ouest, prolonge en fait le rideau de fer, symbole idéologique et politique de la guerre froide, formule prononcée par Winston Churchill dans son discours à Westminster en 1946. À l'occasion d'un grand voyage à travers l'Europe, le président Kennedy fait donc escale à Berlin-Ouest et se rend près du mur pour constater lui-même la violence d'une telle construction. Très ému, il prononce ensuite ce discours devenu historique, critiquant les méfaits du communisme et plaidant pour le droit de l'Allemagne à la réunification.
Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Il y a 2000 ans, l'assertion la plus orgueilleuse était « Civis Romanus sum ». Aujourd'hui, au sein du monde libre, l'assertion la plus orgueilleuse est « Ich bin ein Berliner ». Il existe de nombreuses personnes à travers le monde qui ne comprennent réellement pas, ou qui prétendent ne pas comprendre, quel est le litige entre le monde communiste et le monde libre. Qu'elles viennent à Berlin. D'autres prétendent que le communisme est la vague de l'avenir. Qu'ils viennent à Berlin. Certains, en Europe et ailleurs, prétendent qu'on peut travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin. Et il y en a même quelques-uns qui disent que le communisme est un mauvais système, mais qu'il nous permet de faire des progrès sur le plan économique. Lass sie nach Berlin kommen. Qu'ils viennent à Berlin. Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés, et notre démocratie n'est pas parfaite. Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Je veux dire, au nom de mes concitoyens qui vivent à des milliers de kilomètres de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont si loin de vous, qu'ils sont extrêmement fiers d'avoir pu partager avec vous, même à distance, l'histoire de ces 18 dernières années. Je ne connais aucune ville assiégée durant 18 ans qui ait conservé autant de vitalité, de force, d'espoir et de détermination que Berlin-Ouest. Le mur fournit la démonstration la plus éclatante de la faillite du système communiste. Et cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Mais nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue, comme l'a dit Willy Brandt, une offense non seulement à l'histoire, mais aussi à l'humanité, séparant les familles, les maris de leurs femmes et les frères de leurs sœurs, et divisant un peuple qui voudrait vivre uni. Ce qui est vrai pour cette ville l'est pour toute l'Allemagne. Une paix réelle et durable en Europe ne pourra jamais être assurée tant qu'un Allemand sur quatre sera privé du droit élémentaire des hommes libres à l'autodétermination. Après 18 ans de paix et de confiance, la présente génération allemande a mérité le droit d'être libre, ainsi que le droit à la réunification de ses familles et de sa nation, pacifiquement et durablement. Vous vivez sur un îlot bien défendu de liberté, mais votre vie est liée au sort du continent. En conclusion, je vous demande donc de regarder au-delà de la seule liberté de cette ville de Berlin ou de votre pays, l'Allemagne, vers le progrès de la liberté partout dans le monde, au-delà de vous-même et de nous-mêmes, vers l'humanité tout entière. La liberté est indivisible, et tant qu'un seul homme se trouve en esclavage, tous les autres ne peuvent se considérer comme libres. Mais quand tous les hommes seront libres, nous pourrons attendre avec impatience le jour où cette ville sera réunifiée, de même que ce pays et ce grand continent qu'est l'Europe, dans un monde de paix et d'espoir. Quand ce jour arrivera finalement, et il arrivera, les habitants de Berlin-Ouest pourront tirer une sobre satisfaction du fait qu'ils ont été sur la ligne de front pendant 2 décennies. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont citoyens de Berlin, et pour cette raison, en ma qualité d'homme libre, j'ai fierté à dire « Ich bin ein Berliner ».
Lass sie nach Berlin kommen. Let them come to Berlin.
En 1989, le mur de Berlin tombe enfin sous la pression du peuple, des peuples. L'Allemagne désormais réunifiée doit trouver sa place dans cette nouvelle Europe. Voici un extrait du discours de Václav Havel, dissident tchécoslovaque, devenu président de la République tchèque en décembre 1989. Né à Prague en 1936, Václav Havel se passionne pour le théâtre avant de s'engager politiquement contre le régime communiste. Il est notamment l'un des cofondateurs de la Charte 77 qui défend les droits de l'homme dans son pays. Le 15 mars 1990, alors qu'il est à la tête de la République tchèque, il prononce un discours à l'occasion de la visite du président allemand qui s'est exprimé sur les responsabilités historiques du nazisme. Désireux d'écrire une nouvelle page de l'histoire et d'effacer les blessures du passé, Václav Havel défend le nouveau rôle que l'Allemagne doit désormais tenir et fait appel au bon jugement de chacun. Les relations réciproques entre l'Allemagne et la famille des nations européennes sont traditionnellement l'élément le plus important de la stabilité européenne. Toute l'Europe devrait être reconnaissante envers les Allemands qui ont démantelé le mur qui les divisait, parce qu'ils ont ainsi commencé de détruire le mur qui divisait l'Europe. Pourtant, de nombreux Européens ont encore peur d'une Allemagne unifiée. Les Allemands ont une grande chance historique, c'est à eux de balayer les peurs des Européens. S'ils sont capables, par exemple, de confirmer sans équivoque la validité des frontières existantes, s'ils sont capables de réagir face à l'audace de ceux qui continuent aujourd'hui encore à flirter avec l'idéologie nazie, alors ils auront contribué à former une Europe qui n'aura plus peur d'eux. Que l'unification allemande devienne une force agissant pour l'unification de toute l'Europe ou une force qui la ralentisse, cela dépend des Allemands. Si tout avance de façon raisonnable, on peut considérer comme proche le jour que toute l'Europe attend depuis si longtemps, le jour où un trait pourra être tiré sur la Seconde Guerre mondiale et sur ses conséquences. Enfin, l'Europe rentrera dans le chemin de son vieux rêve, être une union amicale de peuples libres et d'États démocratiques fondés sur le respect des droits de l'homme. Je dois maintenant évoquer ce que nous devons faire. Nous avons encore peur des Allemands et d'une grande Allemagne. Il reste des survivants de la guerre qui ont perdu leurs proches, qui ont souffert dans les camps de concentration ou qui ont dû fuir la Gestapo. Leur méfiance est compréhensible et il est naturel qu'elle soit contagieuse. Notre tâche est donc de surmonter cette peur. Nous devons comprendre que nous n'avons pas souffert à cause de la nation allemande, mais à cause d'individus concrets. Parfois, les gens condamnent ceux qui n'utilisent pas la même langue qu'eux, surtout s'ils parlent la langue d'un tyran. Mais la langue n'est pas responsable du tyran qui l'emploie. Juger un individu d'après sa langue, la couleur de sa peau, ses origines ou la forme de son nez, c'est être raciste, qu'on s'en rende compte ou non. Condamner les Allemands en tant que peuple, les condamner uniquement parce qu'ils sont Allemands ou avoir peur d'eux pour cette raison, revient au même que d'être antisémite. En d'autres mots, accepter l'idée de culpabilité ou de responsabilité collective, c'est affaiblir, qu'on le veuille ou non, la culpabilité ou la responsabilité individuelle. C'est très dangereux. Rendre l'Allemagne coupable de crimes commis par quelques Allemands, ce serait acquitter ces Allemands-là de leur faute et les noyer dans un anonymat où plus personne n'est responsable. Ce serait également nous priver d'espoir. La souffrance crée l'obligation d'être juste et non d'agir de façon injuste. Ceux qui ont souffert vraiment le savent bien. Ce n'est que dans la justice que le pardon peut s'épanouir et que la liberté peut dépasser la haine. Passons maintenant aux adieux d'un dirigeant à son peuple. Le 11 septembre 1973, le président chilien Salvador Allende s'adressait à tous les citoyens du pays dans une allocution radiophonique.
Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza.
Avant de symboliser les attentats du World Trade Center, la date du 11 septembre marquait le coup d'État du général Pinochet au Chili contre le gouvernement de Salvador Allende. Depuis quelques années déjà, le pays subit une crise politique, sociale et économique. Le président Allende, socialiste, a dû faire face à la démission de plusieurs ministres et à une tentative de coup d'État qui a finalement échoué. Mais en 1973, le nouveau commandant en chef des armées, Augusto Pinochet, prend le pouvoir, obligeant Allende à se retrancher dans le palais présidentiel. C'est alors, et depuis là, qu'il s'adresse à son peuple par un message radiodiffusé. Tout en accusant les États-Unis d'avoir œuvré à la préparation de ce coup d'État, il rend hommage à tous les Chiliens et réaffirme sa fierté d'avoir pu diriger ce pays. Quelques heures plus tard, désespéré, il se suicide.
De la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos.
Compatriotes, il est possible que les radios se taisent et je vous dis au revoir. Des avions passent en ce moment et nous tirent dessus. Que l'on sache au moins que nous sommes ici pour l'exemple, pour témoigner que dans ce pays, il y a des hommes qui savent remplir les charges qu'ils ont reçues. Je le ferai avec le mandat du peuple et la volonté d'un président qui a conscience de la dignité de sa fonction. C'est sans doute la dernière fois que j'ai l'occasion de m'adresser à vous. Les forces aériennes ont bombardé les tours de Radio Portales et de Radio Corporation. Mes paroles sont sans amertume, mais non sans déception. Il ne me reste plus qu'à dire aux travailleurs, je ne renoncerai pas. À ce tournant historique, je paierai de ma vie la loyauté du peuple. Et je vous dis ma certitude que la semence que nous avons déposée en la conscience digne de milliers de Chiliens ne pourra être définitivement détruite. Ils ont la force, ils pourront nous asservir, mais on ne retient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire nous appartient, et ce sont les peuples qui la font. Travailleurs de ma patrie, je tiens à vous remercier de la loyauté que vous m'avez toujours manifestée, de la confiance que vous avez accordée à un homme qui n'a été que l'interprète d'une grande soif de justice, qui avait donné sa parole de respecter la Constitution et la loi, et qui l'a fait. Je m'adresse surtout à la modeste femme de mon pays, à la paysanne qui a cru en nous, à l'ouvrière qui a travaillé davantage, à la mère qui a compris notre préoccupation pour les enfants. Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté, qui ont offert leur joie et leur esprit de lutte. Je m'adresse aux Chiliens, à l'ouvrier, aux paysans, à l'intellectuel, à ceux qui seront persécutés. Radio Magallanes sera sans doute réduite au silence et ma voix tranquille n'arrivera pas jusqu'à vous. Peu importe. Vous continuerez à m'entendre. Je serai toujours à vos côtés. Le peuple doit se défendre, non se sacrifier. Le peuple ne doit pas se laisser faire ni se laisser piétiner, pas plus qu'il ne doit se laisser humilier. Travailleurs de mon pays, j'ai foi dans le Chili et en son destin. D'autres hommes viendront, qui surmonteront ces instants sombres et amers où la trahison prétend s'imposer. Sachez que bien plus tôt que prévu s'ouvriront de nouveau les larges avenues où passera l'homme libre pour bâtir une société meilleure. Vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es assise à près de moi, je suis à des années de toi, c'est ça.
Jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions.
Reconnaître les erreurs commises par son pays et demander pardon. Voici le très beau discours de Jacques Chirac prononcé à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1995. Quelques semaines après son élection, Jacques Chirac est le premier président français à reconnaître publiquement la responsabilité de la France dans la collaboration. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, 450 policiers et gendarmes français, sous l'autorité de leur chef, répondaient aux exigences des nazis. Ce jour-là, dans la capitale et en région parisienne, près de 10 000 hommes, femmes et enfants juifs furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés dans les commissariats de police. On verra des scènes atroces, les familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les vieillards dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de la préfecture de police. On verra des scènes atroces, les familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les vieillards dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de la préfecture de police. On verra aussi des policiers fermer les yeux, permettant ainsi quelques évasions. Pour toutes ces personnes arrêtées, commence alors le long et douloureux voyage vers l'enfer. Combien d'entre elles ne reverront jamais leur foyer? Et combien, à cet instant, se sont senties trahies? Quelle a été leur détresse? La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Conduites au vélodrome d'hiver, les victimes devaient attendre plusieurs jours, dans les conditions terribles que l'on sait, d'être dirigées sur l'un des camps de transit, Pithiviers ou Beaune-la-Rolande, ouverts par les autorités de Vichy. L'horreur, pourtant, ne faisait que commencer. Suivront d'autres rafles, d'autres arrestations, à Paris et en province. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons, à leur égard, une dette imprescriptible. La Torah fait à chaque juif devoir de se souvenir. Une phrase revient toujours qui dit « N'oublie jamais que tu as été un étranger et un esclave en terre de Pharaon. » 50 ans après, fidèle à sa loi mais sans esprit de haine ou de vengeance, la communauté juive se souvient et toute la France avec elle. Pour que vivent les 6 millions de martyrs de la Shoah, pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais plus, pour que le sang de l'Holocauste devienne, selon le mot de Samuel Pizard, le sang de l'espoir. Quand souffle l'esprit de haine, avivé ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l'exclusion, quand à nos portes, ici même, certains groupuscules, certaines publications, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs, de manière plus ou moins ouverte, d'une idéologie raciste et antisémite, alors cet esprit de vigilance qui vous anime, qui nous anime, doit se manifester avec plus de force que jamais. En la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, rien n'est dissociable. Les crimes racistes, la défense de thèses révisionnistes, les provocations en tout genre, les petites phrases, les bons mots, puisent aux mêmes sources. Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps, témoigner encore et encore, reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État, ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre une idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. C'est lutter contre les forces obscures sans cesse à l'œuvre. Cet incessant combat est le mien autant qu'il est le vôtre. En cet instant de recueillement et de souvenirs, je veux faire le choix de l'espoir. Je veux me souvenir que cet été 1942, qui révèle le vrai visage de la collaboration, sera pour beaucoup de nos compatriotes celui du sursaut, le point de départ d'un vaste mouvement de résistance. Je veux me souvenir de toutes les familles juives traquées, soustraites aux recherches impitoyables de l'occupant et de la milice par l'action héroïque et fraternelle de nombreuses familles françaises. Certes, il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective. Mais il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n'a jamais été à Vichy. Elle n'est plus, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables libyens et partout se battent les Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le général de Gaulle. Elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, ces justes parmi les nations, qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie, comme l'écrit Serge Karlsfeld, les trois quarts de la communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu'elle a de meilleur. Les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l'identité française et nous obligent pour l'avenir. Ces valeurs, celles qui fondent nos démocraties, sont aujourd'hui bafouées en Europe même, sous nos yeux, par les adeptes de la purification ethnique. Sachons tirer les leçons de l'histoire. N'acceptons pas d'être les témoins passifs ou les complices de l'inacceptable. C'est le sens de l'appel que j'ai lancé à nos principaux partenaires à Londres, à Washington et à Bonn. Si nous le voulons, ensemble, nous pouvons donner un coup d'arrêt à une entreprise qui détruit nos valeurs et qui, de proche en proche, risque de menacer l'Europe entière. Et enfin, pour conclure, un texte qui n'a malheureusement pas pu être prononcé de vive voix, « Se libérer de la peur » par la dissidente birmane Aung San Suu Kyi. Ce texte a été publié dans divers journaux lorsque le Parlement européen a attribué à Aung San Suu Kyi le prix Sakharov 1990 pour la liberté de penser. La cérémonie de remise du prix a eu lieu à Strasbourg le 10 juillet 1991, mais elle n'a pu y assister. À cette époque, en effet, la future lauréate du prix Nobel de la paix, qui s'oppose à la dictature de la junte militaire de son pays, était en liberté surveillée. Ce n'est que depuis le 13 novembre 2010 qu'Aung San Suu Kyi peut se déplacer librement.
Il est bien difficile à ceux qui ont la chance de vivre dans un état de droit d'imaginer l'effort qu'il faut déployer pour résister à la corruption, lorsque la peur fait partie du quotidien. Dans un système qui dénie l'existence des droits humains fondamentaux, la peur tend à faire partie de l'ordre des choses. Peur d'être emprisonné ou torturé, peur de la mort, peur de perdre ses amis, sa famille, ses biens ou ses moyens de subsistance, peur de la pauvreté, de l'isolement ou de l'échec. Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend le masque du bon sens, voire de la sagesse, en condamnant comme insensé, imprudent, inefficace ou inutile les petits gestes quotidiens de courage qui aident à préserver respect de soi et dignité humaine. Un peuple assujetti à une loi de fer et conditionné par la crainte a bien du mal à se libérer des souillures de la peur. Mais aucune machinerie d'État, fût-elle la plus écrasante, ne peut empêcher le courage de ressurgir encore et toujours. Face à un pouvoir sans limite, les hommes ont besoin d'enraciner leur courage et leur pugnacité dans les principes sacrés de la morale et d'écouter la leçon de l'histoire qui montre clairement qu'en dépit de ces régressions, la condition humaine finira bien par progresser sur le plan matériel et spirituel. Cette aptitude de l'homme à s'améliorer et à se racheter le sépare de la simple brute. La responsabilité humaine trouve son origine dans l'idée de perfection et ce qu'elle exige de désir, d'intelligence et de détermination. Il faut brûler d'envie de l'atteindre, savoir trouver le chemin qui mène jusqu'à elle et avoir la constance de le suivre, sinon jusqu'au bout, du moins assez longtemps pour dépasser les limites individuelles et surmonter tous les obstacles qui se présentent. C'est la vision d'une humanité raisonnable et civilisée qui inspire l'audace et la force de construire des sociétés enfin délivrées du besoin et de la peur. Les notions de vérité, de justice et de compassion ne sont pas dépassées. Il ne faut pas les jeter au rebut. Elles restent souvent notre seul rempart contre un pouvoir sans pitié.
Ça peut pas faire de mal.
« Cette émission en partenariat avec le magazine littéraire a été réalisée par Xavier Pestugia avec Frédéric Changenet à la technique. Merci à vous deux, merci aussi à Estelle Gap, Laura Elmaki et Isor Pisani-Ferry qui l'ont préparé. Et merci infiniment Denis pour ces lectures.
Merci beaucoup.